cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jodard le 23 janvier 1992.
Nous avions terminé la dernière fois sur la manière dont, par le jugement, on peut comprendre comment l'appréhension est dépassée grâce au jugement d'existence. Ceci est, ou on avait dit, il est. Ça n'a pas tellement d'importance. Il est pour respecter le jugement d'existence par rapport à l'homme. C'est juste, puisque toute la métaphysique ne peut se comprendre que par rapport à cette expérience plus profonde du jugement d'existence par rapport à l'homme, qui se termine où je suis. Donc, je reprends très rapidement et puis continuerons. Nous avions vu la nécessité de poser l'appréhension à partir du jugement. Puis, nous sommes demandés comment l'appréhension, qui est un mode universel, je saisis homme, le prédicable, blanc, comment se fait le passage de l'appréhension au jugement d'existence. Autrement dit, bien comprendre comment, ayant posé l'appréhension blanc, qui est un mode universel, une signification universelle, avec le jugement, ceci est, il est, qui implique un nom et un verbe, et qui est concret, et non pas universel, qui est singulier. Je suis parti du jugement, puisque c'est le jugement dont j'ai conscience. Je n'ai conscience de l'appréhension que par le jugement. J'ai vu la nécessité de poser l'appréhension, assimilation intentionnelle, et le jugement qui implique une adhésion à la réalité. Je touche la réalité par le jugement. Tandis que par l'appréhension, je saisis une détermination, une quiddité, sous un mode universel. Il y a donc un passage qui implique le point de vue de l'appréhension, du jugement à l'appréhension. Et l'appréhension est comme un élément fondamental de ma vie intellectuelle. Alors, vous voyez, il y a un double mouvement. J'extrais du jugement l'appréhension par le point de vue de l'abstraction, et pour expliquer l'abstraction, j'ai posé l'intellect agent pour sauver le C mauvais ré de la diligence. Je pense. C'est moi qui pose le jugement. Il est. Ceci est. Ce C mauvais ré ne peut se comprendre que grâce à l'intellect agent qui opère sur l'image et qui extrait la forme intentionnelle. Intelligible. Alors, comment expliquer de l'appréhension, je peux sortir le jugement. Alors, position d'Occam, je la donne parce que, de fait, elle a tellement marqué qu'on la retrouve chez Heidegger. La position d'Occam commande la position de Descartes, commande la position de Kant jusqu'à Heidegger. C'est assez curieux. Mais comme c'est curieux, la position d'Aristote, reprise par Thomas d'Aquin, et tout de suite après Thomas d'Aquin, elle est cachée par Don Scott Occam. Ce qui est très curieux, c'est que les positions plus imaginative, j'allais dire, continue, les positions d'analyse intellectuelle plus profondes sont très vite oubliées. C'est là que on voit très bien comment dans les traditions humaines, l'imaginaire joue un rôle très grand. Et la saisie intellectuelle se perd très vite. Pour Occam, c'est tout simplement l'addition. Le jugement est complexe, l'appréhension est simple. On additionne, on aboutit au jugement. Et alors, on reste dans l'intentionnalité. Et pour expliquer le contact réel, on ajoute la sensation. Mais la sensation est extérieure à la forme intentionnelle abstraite, de sorte que on ne saisit plus l'être. L'intelligence est au niveau universel. Seule la sensation touche la réalité. Quand je touche cette table, ce n'est pas mon intelligence qui la touche. C'est ma sensation. Alors, on voit très bien le noumen. Le noumen est inconnaissable, le noumen de Kant. On voit très bien Descartes, les idées qui tombent du ciel, innées. À la place de poser l'intellect agent, on dit tout simplement que les formes intentionnelles viennent directement de Dieu. Tandis que là, elle s'enracine dans le jugement. Alors, comment expliquer que je retombe et je redécouvre le point de vue du singulier? C'est tout simplement parce que le jugement est premier au point de vue vitalité de l'intelligence. Le jugement a son originalité. Je suis parti du jugement. Dans mon analyse, je pose appréhension. Et quand je reviens sur le jugement, je ne dois pas du tout considérer que c'est à partir de l'analyse que j'explique le jugement. Mais c'est le jugement qui, lui-même, explique sa qualité propre. Donc, je reviens sur le jugement, je dis le jugement, atteint directement ce qui est. Autrement dit, c'est le verbe qui, dans le jugement, commande tout. Le verbe ici, c'est « est ». Et c'est bien le jugement, opération parfaite de mon intelligence, par le jugement, l'être en acte. Ceci est. C'est donc le verbe être, puisque c'est le verbe être, le verbe le plus primitif et le plus fondamental qui actue directement ma vie intellectuelle, ma puissance intellectuelle. Une fois que j'ai compris cela, je vois comment, grâce au verbe, je peux comprendre le lien entre l'appréhension universelle et le nom. Parce que c'est ça qui est difficile à expliquer. Comment de l'universel, je rejoins le singulier, qui est le problème et qui est lien par excellence. Point de vue critique. Et on comprend très bien, parce que je constate d'un côté, par mon langage, que mon intelligence saisit toujours des termes, des significations, comme un mode universel. Et comment dans le jugement, je saisis le singulier. Ça, je le constate, je touche deux extrêmes. Puis le nom. Les deux extrêmes, c'est le singulier, le nom est singulier, et l'appréhension saisie, l'universel. Comment se fait le lien? Vous voyez, le triangle de base, c'est curieux du reste. Ma vie intellectuelle s'explique par ce triangle de base. Le verbe, le nom, l'abstraction, le terme simple. Mais comprenons, il y a un ordre. Et c'est ça qu'il faut respecter. Il y a un ordre. Le premier dans l'ordre de perfection, c'est le verbe. Primo, cadit in intellectus, ens, ce qui est. Mais je comprends l'affirmation de saint Thomas. Je vous l'ai déjà dit. Primo, cadit in intellectu, ens. Vous voyez l'importance. C'est pas étonnant que saint Thomas l'affirme 178 fois. Quelque chose comme ça, je ne sais plus si c'est 175 ou 178, peu importe. Mais ça prouve qu'il y tient. Et les thomistes n'ont pas fait assez attention. Cette répétition constante de saint Thomas. Primo, cadit in intellectus, ens. Primo. Alors, le primo, c'est pas celui de l'appréhension. Le primo, c'est celui du jugement. Parce que je ne saisis pas du tout, au point de vue de l'appréhension, le verbe. Je ne saisis que des termes universels. Et la signification du verbe n'est jamais premièrement dans l'universel. La signification du verbe devient universelle par l'infinitif être, marcher, travailler, je travaille. Le verbe est d'abord singulier. Et parce qu'il est saisi immédiatement. Donc le primo n'est pas d'ordre génétique. Le primo est d'ordre perfection. Parce que le jugement est un acte parfait. Tandis que l'appréhension n'est pas un acte parfait. C'est un élément. C'est un acte élémentaire. Alors, une fois que j'ai compris ça, je vois comment le verbe est toujours lié à un nom concret. Que ce soit il ou que ce soit ceci, ça revient exactement au pour ce qui m'intéresse ici. Donc, le verbe s'attribue au nom et le nom contient la détermination quantitative abstraite. Puisque le nom implique une détermination. Commencez à comprendre alors ce qui est dit dans les prédicaments, substance première, substance seconde. Substance première, le nom, ceci, il. Substance seconde, homme, blanc. Appréhension. Ici, le sujet, le nom. Comment unir les deux? L'expression des scolastiques, le verbe est copule. Il unit substance première et substance seconde. Je donne l'expression parce que on la retrouve en scolastique. Faut surtout plus l'employer. Parce que c'est ça qui fait tout dévier. On a dit copule. Le verbe est devenu la colle qui unit les deux. Alors, si vous faites ça, vous avez un schéma imaginatif qui vous empêche complètement de comprendre. Et à partir de là, il y a eu la fameuse thèse thomiste et scotiste en disant, Don Scott dit que la première chose que l'intelligence atteint, c'est le singulier. Et la thèse thomiste, la première chose que l'intelligence atteint, c'est l'universel. On a tout faussé. Parce qu'on a fait du verbe une copule. Alors que c'est le verbe qui est premièrement connu. Puisque le verbe contient l'acte. Oui. Donc, si, c'est très curieux. Le petit schème ici, vous voyez, vous avez. Alors, si je suis thomiste, dans la scolastique, si je suis thomiste, je marque rouge. Si je suis thomiste, je dis 1, 2, 3. Si je suis thomiste, c'est-à-dire si je fais passer la logique avant la métaphysique, alors j'ai 1, 2, 3. Je commence par l'universel, je rejoins le nom et je le rejoins par le verbe. Si je suis scotiste, on va l'écrire en bleu, parce que Don Scott a proclamé l'Immaculée Conception. 1, 3. C'est la logique qui rejoint le thomisme et le scotisme. Essayez de comprendre ce petit schème, c'est très très curieux de voir que le triangle de base au point de vue critique, c'est le verbe, le nom qui assume l'abstraction. ce que je vous ai dit la dernière fois, je l'ai dit très vite, c'est pour ça que je reviens. Pour que vous voyez bien ça. C'est toujours la même chose, vous voyez. Quand Aristote dit qu'on touche une source et que la déviation au niveau de la source est peut-être pas très grande, elle a d'immenses conséquences. Là, on touche le fondement de toute notre vie intellectuelle. Donc, l'ordre qu'on met dans ce fondement est capital. Alors n'oubliez pas ça. Réfléchissez sur, puisque c'est intéressant de rejoindre la pensée de saint Thomas, réfléchissez sur le primo cadit in intellectu. Tous les thomistes sont obligés de reconnaître que saint Thomas affirme ça 175 fois ou 178. Et malgré ça, ils disent que ce qui est premier dans la vie intellectuelle, c'est l'universel. Je comprends rien. Puisque ens, c'est concret. Saint Thomas ne dit pas SC. Il dit ens. Qu'est-ce que c'est ens? Il le dit lui-même. Id quod est. Cela qui est. C'est donc bien quelque chose de concret. Cela qui est. Ens. Et l'abstrait, c'est essai. Il est dit textuellement dans le petit opuscule du De Hebdomadibus de Boès. Donc, ceci est une grande affirmation constante. Personne ne le nie. Et malgré ça, on dit que la première chose que l'intelligence connaît, c'est l'universel. Il y a quelque chose de juste. C'est que l'abstraction est un élément. Alors, un élément est premier. Oui, ça dépend. Un élément n'est jamais premier. C'est le fruit d'une analyse. Alors, c'est premier génétiquement. Mais c'est pas premier dans l'ordre de perfection. C'est la confusion du premier génétique du premier parfait. Et ceci au point de vue critique, je peux très bien le saisir. Une fois qu'on a vu cela, ce qui est capital, là je redresse toute une scolastique décadente. En comprenant l'importance du jugement d'existence, qui est tout à fait premier dans l'ordre de ma vie intellectuelle. Cette méta-expérience, quand je touche la table, cette table existe, c'est mon intelligence qui la touche, par mes sens. Mais voyez, par mes sens, par ma sensation, peut s'entendre de deux manières différentes. Par la sensation, donc si je dis par la sensation, par le toucher, qui est la sensation la plus fondamentale, le par est où quelque chose de qui s'ajoute. Quelque chose de séparé. La sensation touchée s'ajoute, séparée. C'est extérieur à ma vie intellectuelle qui atteint l'universel. Où le par est tout simplement ce qui, de fait, est impliqué dans mon jugement. Mon jugement est composé, il implique la sensation. Mais l'intelligence se sert de la sensation, mais mon intelligence dépasse la sensation. Là encore, vous voyez, on a analysé la sensation présente dans tout jugement d'existence. Et on a considéré la sensation comme un élément extérieur à l'intelligence. Alors que mon intelligence se sert des sensations pour atteindre le réel. Alors, à partir de là, maintenant nous allons regarder la diversité des jugements. Les deux extrêmes de toute ma vie intellectuelle au niveau jugement, c'est ceci est, il est, c'est premier, primo, cadit in intellectus ens. Le jugement ultime, dernier, sagesse. Je comprends très bien. C'est les deux extrêmes de toute ma vie intellectuelle. Et c'est le point de départ génétique. Toute ma philosophie repose sur le jugement. Si elle ne repose pas sur le jugement d'existence, elle ne peut plus reposer que sur les idées, d'où les idéologies. C'est là, on voit très bien qu'il y a ou une philosophie réaliste ou une philosophie idéologique. Le point de départ, c'est l'idée. Le jugement de sagesse qui se fait par une comparaison. Je mets en relation le jugement sur l'être premier créateur et le jugement sur la créature. Plus parfaite, l'homme. Le je suis du créateur et le je suis de l'homme créé. Le je suis du créateur est infini. Le je suis de l'homme créé est fini. Vous voyez, Suarez dit que la métaphysique commence par l'idée d'être infini et fini. Ce point de départ avec le jugement de sagesse. La métaphysique se termine dans ce jugement de sagesse. Le créateur est infini et moi, créature, je suis fini. Il y a une relation entre les deux, la relation de dépendance de la créature à l'égard du créateur. C'est très vrai. Le jugement ultime, c'est le je suis du. du créateur qui est infini et le je suis de la créature qui est finie. Mais c'est quelque chose d'ultime. Jugement de sagesse. Et non pas point de départ. Voyez donc qu'au point de vue critique, je puis tout de suite dire que la grande confusion, la plus fondamentale, c'est de confondre le premier génétique avec le premier dans l'ordre de perfection. Et nous avons un exemple net. Thomas d'Aquin, primo caditi intellectus ens. Suarez, le point de départ de la métaphysique. Ens infini, ens fini. Et au fond, on retrouverait exactement dans le Timée de Platon exactement la même chose que Suarez. On trouverait dans le Timée de Platon le nécessaire et le contingent. L'infini est nécessaire dans l'ordre de l'être. Le fini est contingent. Alors on commence par la propriété, Platon. Suarez, lui, va un peu plus loin, puisqu'il touche l'ens, l'être, l'être fini, le concept d'être, fini et infini. Mais c'est la même chose, c'est la division du nécessaire et du contingent. Le nécessaire seul est infini, dans l'ordre de l'être. Seul l'être infini est nécessaire. L'être fini est nécessairement contingent, puisqu'il dépend d'un autre. Il est participé. Ceci, c'est pour qu'on comprenne bien l'importance de ces deux extrêmes de ma vie intellectuelle. Ça, au plan du critique, je peux tout de suite le montrer. Le jugement d'existence est ce qu'il y a de premier. Et le jugement de sagesse, c'est ce qu'il y a d'ultime. Mais le jugement de sagesse est toujours lié à l'exister. Entre deux, entre ces deux extrêmes, l'extrême jugement d'existence et l'autre extrême jugement de sagesse. Vous avez toute une série de modalités de jugement. Alors on va essayer d'en préciser quelques-uns et d'essayer de trouver un ordre critique entre ces jugements. Je crois qu'on peut poser tout de suite, et c'est ça qui peut-être est le plus intéressant, c'est de voir que mon jugement d'existence est toujours contingent. Ceci est, il est, c'est contingent. Il est, c'est Pierre, c'est moi. Il peut mourir. Donc il est contingent. Je saisis l'être toujours au point de départ dans la contingence. À quel moment apparaît le nécessaire? Point de vue critique. C'est intéressant puisque le nécessaire fonde la science. Si je n'avais pas de jugement qui implique le nécessaire, il n'y aurait pas de science. Quand je suis dans l'aspect descriptif, je suis toujours dans le contingent et le relatif. À quel moment apparaît le nécessaire dans ma vie intellectuelle? Je crois que c'est la seconde grande question critique. J'ai analysé le point de départ, ce qu'il y avait de plus fondamental dans ma vie intellectuelle. Maintenant, je veux comprendre. quel moment apparaît nécessaire. Le nécessaire apparaît avec la saisie des principes. Principe est nécessaire. Autrement, il ne serait pas principe. Donc, je précise ici, au plan critique, l'apparition du principe de la nécessité. À quel moment je saisis un principe? Le premier principe que je saisis en philosophie, c'est d'abord dans la philosophie pratique. L'eidos. L'idéa. Cause exemplaire. C'est la cause exemplaire qui est première dans la saisie du nécessaire. C'est assez étonnant. Si la philosophie de l'activité artistique, si la philosophie du travail est première génétiquement, qu'est-ce qui commande toute la philosophie du travail, toute la philosophie de l'activité artistique? Quel est le principe propre que je saisis en premier lieu en philosophie du travail? C'est l'eidos, l'idéa. Pourquoi? Parce que mon travail est ordonné par l'idéa. C'est l'idéa qui commande tout. C'est très curieux, vous voyez, parce que historiquement, c'est le Tibet de Platon. C'est le Tibet de Platon qui cherche à comprendre comment je découvre quelque chose de nécessaire. Dans notre monde physique, je n'ai aucune expérience du nécessaire. Tout ce que vous touchez est relatif. Tout ce que vous expérimentez est relatif. Le premier moment où vous saisissez du nécessaire, c'est grâce à l'induction. C'est par l'induction. Je ne saisis pas de nécessaire tant que je n'ai pas induit. Je peux répéter hein, sans l'avoir saisi. On répète, oui. Ah oui, oui. C'est très curieux et c'est très intéressant, ça, au point de vue critique. Je ne saisis le nécessaire que quand mon intelligence a induit, qu'elle est passée de l'expérience singulière à la saisie d'un principe. Propre. Le principe propre, c'est lorsque ce qui est attribué à un sujet est lié au sujet selon un lien de perséité, donc de nécessité. L'attribut est impliqué dans l'intelligence du sujet. Alors je suis en face d'une attribution nécessaire. Et cette attribution nécessaire est évidente. Tout principe implique l'évidence. Et la nécessité nécessité repose sur l'évidence. C'est la seconde structure de ma vie intellectuelle. La première, c'est ce que nous avons vu, l'appréhension, le jugement. Maintenant, je passe à un autre niveau. Qu'est-ce qui fonde la science ? Qu'est-ce qui fonde la saisie du nécessaire ?